Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Jérôme Florin. Bonjour Jérôme.
Bonjour Yves, bonjour à tous. Et voici une nouvelle grande pagaille ce mardi. 13e jour de paralysie dans les transports. Et en 13 jours, vous l'avez d'ailleurs peut-être vécu vous-même, se déplacer c'est souvent la jungle. Un chiffre en atteste ce matin. Le nombre d'accidents de deux roues a bondi de 40% à Paris depuis le début de la grève. Vélo, scooter, mais aussi trottinette, c'est l'anarchie. Bonjour Arnaud Touche.
Bonjour.
Vous êtes devant la gare Saint-Lazare à Paris. Vous le voyez là sous vos yeux, tout est permis, il n'y a plus de règles.
Oui, et pour le comprendre, il faut parler avec Laetitia. Elle vient tout juste de prendre son Vélib, casque sur la tête et gilet jaune sur le dos. Pour elle, c'est indispensable.
Il y a tellement de deux roues par rapport à d'habitude. Et entre les voitures, les deux roues, les Vélib, les trottinettes, tout le monde, c'est un peu la guerre et la jungle. Et chacun fait un peu ce qu'il veut et personne ne respecte les règles.
Et pour preuve, dans sa voix, il y a bien souvent...
des voitures qui regardent pas dans leur rétro, qui déboîtent de nulle part, des vélos qui grillent les feux, des voitures qui grillent les feux, voilà.
Laetitia enfourche pourtant régulièrement son vélo pour se rendre au travail. Mais en ce moment, sa piste cyclable est très chargée avec des gens.
Qui prennent le vélo pendant la grève, qui prennent leur scooter pendant la grève, qui prennent leur voiture pendant la grève et qui n'ont pas du tout l'habitude de rouler dans Paris.
Et c'est un problème. Sur le rebord du trottoir, Elias pose des affiches dans la capitale. Et pour lui aussi, c'est compliqué.
Surtout avec les camions, il y a beaucoup d'angles morts, tout ça, on ne les voit pas arriver, c'est pas évident du tout.
Et la semaine dernière, un accident s'est produit.
Pour vous donner un exemple, on a un collègue qui s'est fait renverser par un scooter. Il traversait, il y a un scooter qui l'a rentré dedans.
C'était aux heures de pointe ?
Oui. Aux heures de pointe, oui.
Et malgré la circulation dense, ici, nombreux sont les cyclistes et amateurs de trottinettes à ne pas porter de casque ni de gilet alors qu'il fait encore nuit.
Merci Arnaud Touche en direct de la gare Saint-Lazare à Paris. Faites attention à vous. Côté prévision, ça ne s'améliore pas. Au contraire, hein, il n'y a qu'un TGV sur quatre en circulation aujourd'hui. Tous les détails sur notre site rtl.fr.
Et alors que les opposants à la réforme des retraites s'apprêtent à manifester aujourd'hui pour la troisième fois, le journal Le Monde fait de nouvelles révélations sur Jean-Paul Delevoye.
Le haut commissaire aux retraites abattu hier en retraite, démission forcé après ses multiples oublis dans sa déclaration d'intérêt. Il percevait des salaires alors qu'il était au gouvernement. Était-il le seul fautif dans cette histoire ? Non, affirme Le Monde ce matin. D'après le journal, le secrétariat général du gouvernement était au courant de sa situation. Et depuis longtemps, William Galibert.
Oui, les services de l'État auraient dû être alertés. Dès 2017, Jean-Paul Delevoye n'est pas encore membre du gouvernement, mais il est déjà nommé très officiellement haut commissaire à la réforme des retraites. Il va donc cumuler rémunération publique et rémunération privée. Sa situation est alors examinée, mais d'après le journal Le Monde, cette situation a été validée à l'époque par le secrétariat général du gouvernement et par Matignon, qui aurait donc pu, dès 2017, s'éviter cette affaire de Delevoye et son départ fracassant du gouvernement. Ce matin, les services du Premier ministre ne sont pas spécialement bavards sur le sujet et pour l'instant, ne confirment ni ne démentent ces informations du Monde.
Merci pour toutes ces précisions. William Galibert et sur RTL, Bruno Retailleau, le président du groupe LR au Sénat, affirme qu'il va demander de son côté des explications.
Et nous en débattrons à 8h20 avec le député La République En Marche, Olivier Véran, et le président d'Anticor en direct de Nice.
Et c'est dans ce contexte que les négociations doivent reprendre demain à Matignon avec les syndicats. On connaîtra alors l'ampleur de la mobilisation de ce mardi. Les syndicats espèrent atteindre la barre du million de manifestants. Et Noël, dans tout ça, les fêtes risquent d'être gâchées. Si vous avez réservé un billet pour ce week-end, vous devriez recevoir un SMS ou un mail de la SNCF aujourd'hui pour vous dire si votre train part ou pas. Tout le monde devrait être fixé d'ici 15h. L'alternative pour beaucoup, c'est la voiture ou la voiture de location. Mais attention, il va falloir faire vite, hein. Les loueurs sont pris d'assaut. Écoutez ce reportage dans une agence d'ici les Moulineaux, près de Paris. Reportage de Gauthier Delon-Bugard.
Le parking de cette agence est presque vide. Seuls quelques utilitaires sont encore disponibles.
Essayez de vous trouver une solution. Essayez de trouver un véhicule pour vous, même si c'est un
les
peu
clients
compliqué.
Se ruent sur cette alternative de la location. Comme ce président d'un club de handball, il a transporté toute son équipe le week-end dernier à Gravelines.
Normalement, on prévoyait d'y aller en train. Et donc la catastrophe. Donc on lui a demandé de nous trouver absolument deux minibus. C'est important parce que nous, sinon, on perd par forfait.
Bonjour monsieur.
Bonjour. Je suis Jean-Christophe Crouse, je suis le responsable de l'agence Rent-a-Car d'ici les Moulineaux.
Alors je suis venu pour tenter de trouver un véhicule de location. Est-ce que cette semaine c'est possible ?
C'est très compliqué. Je suis en train de regarder sur mon planning. On est complet. On est déjà sur une activité qui est très forte due aux fêtes de fin d'année. Le phénomène est vraiment amplifié par la grève. On a des gens qui préfèrent louer pour être sûr de pouvoir se rendre à leur travail. On a une demande de 20% en plus par rapport à d'habitude.
La pénurie gagne même les sites internet des plus grandes marques de location. Hertz, Europcar, aucun véhicule n'est par exemple disponible à l'aéroport de Roissy la semaine prochaine. L'aéroport ou d'autres plateformes en profitent et n'hésitent pas à faire flamber les prix. 1 300 €. 4 jours de location, c'est le minimum à débourser pour aller fêter Noël en famille.
Un reportage de Gauthier Delon-Bugard.
RTL Matin 8h05.
Et malgré les difficultés, une majorité de Français semble soutenir toujours le mouvement.
Ils sont 62% d'après notre baromètre Harris Interactive pour RTL, un socle qui reste donc solide. Et ceux qui sont en première ligne depuis le début, les cheminots et qui perdent de l'argent chaque jour non travaillé, lancent un appel comme ce gréviste à Caen qu'on a pu entendre hier matin sur l'antenne de RTL au micro de Julien Caillard.
On ne peut pas être les seuls à perdre de l'argent. Je fais la proposition à tous les corps de métier, voilà, d'ouvrir une caisse. Vous êtes contre la réforme, vous ne pouvez pas par votre métier faire grève, financer les gens qui vont vous aider à combattre le gouvernement.
Autrement dit, financer une cagnotte pour aider les grévistes. L'appel a-t-il été entendu? Est-ce que les Français donnent? C'est la question du 8.
Et c'est avec vous Éric Vanier, bonjour.
Bonjour.
Lors de la longue grève des cheminots l'an dernier contre la réforme ferroviaire, plus d'1 million d'euros avaient été récoltés et redistribués. Est-ce qu'une telle cagnotte existe aujourd'hui?
Non, il y a bien eu au début du mouvement une pétition de soutien signée par près de 200 artistes et intellectuels, dont le réalisateur Robert Guédiguian, le philosophe Étienne Balibar et l'économiste Thomas Piketty, mais ça s'est arrêté là. Aucune souscription nationale n'a été ouverte en ligne ou ailleurs pour soutenir les grévistes.
Même pas du côté des syndicats ?
Si, il y a une fédération de la CGT, celle qui couvre le secteur de l'information et de la communication, qui a non pas lancé une cagnotte pour l'occasion, mais réactivé un fonds de solidarité qui avait été créé sur Internet via le pot commun en 2016 lors du conflit contre la loi El Khomri et qui depuis n'avait jamais été fermé. Le cap des 200 000 € a été franchi en 12 jours et la somme continue de grossir, mais on reste loin du million et même plus qu'avait drainé la cagnotte des intellectuels en 2018.
Et à part cela, est-ce qu'il y a des cagnottes locales ?
Oui. Des caisses de grève mises en place par les assemblées générales, alimentées par les quêtes qui sont faites les jours de manif ou sur les marchés, ou encore par les non-grévistes qui sont solidaires du mouvement. Sinon, le vrai trésor de guerre, il est à la CFDT qui prélève un pourcentage sur les cotisations de ses adhérents pour pouvoir les indemniser s'ils font grève. Le syndicat aurait ainsi 126 millions en réserve, de quoi voir venir.
Ouh là là, la question de 8h avec Éric Vanier.
Et c'est l'autre manifestation du jour, les personnels hospitaliers, médecins, infirmiers, aides-soignants descendent une nouvelle fois dans la rue. Tout à l'heure, ils défileront ce matin à Paris. Malgré les nombreux plans annoncés, malgré les crédits débloqués, ils ne voient toujours pas d'amélioration. 830 chefs de service menacent ce matin de démissionner si la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, n'ouvre pas immédiatement des négociations.
Dans un court instant, on vous présente les plus vieux mariés du monde.
RTL Matin 8h07.
Bonjour, c'est nous.
RTL Matin.
RTL 8h09, la suite de votre journal. Jérôme Florin, Yves Calvi.
Le 22 décembre, John et Charlotte vont célébrer leurs 80 ans de mariage.
Ce couple d'Américains vient d'être répertorié par le Guinness Book des records comme étant le plus vieux couple marié du monde. Bonjour Philippe Corbet.
Bonjour.
8 décennies, ça se fête. Hein.
Oui, on appelle ça des noces de chêne puisque les Anderson se sont mariés en décembre 1939 et encore ça faisait 5 ans qu'ils étaient ensemble. Ils se sont rencontrés en 1934 alors qu'ils étaient étudiants à l'université du Texas à Austin qui comptait alors 53 000 habitants. Il y en a aujourd'hui 2 millions et c'est là qu'ils vivent encore. Charlotte a 105 ans, John va fêter la semaine prochaine ses 107 ans. Il est né l'année du naufrage du Titanic, il a pris sa retraite en 1972. Ils disent que leur secret c'est la modération, manger sainement, ne pas trop boire. John va à la salle de gym presque tous les jours. Ils se sont rarement disputés et quand ça a été le cas, ils ont toujours fait en sorte de se réconcilier avant d'aller se coucher. Les Anderson n'ont jamais eu d'enfants et John plaisante en disant que c'est peut-être pour ça que leur couple est dans sa 9e décennie.
Les enfants, c'est aussi beaucoup de bonheur.
Allez. Les noces de chêne.
Merci Philippe Corbet. Boeing suspend la production de son 737 Max. L'appareil n'a plus le droit de voler depuis deux crashs. Les autorités aériennes n'ont toujours pas donné leur feu vert pour le faire redécoller. Le constructeur américain se voit donc contraint d'appuyer sur pause. Alors pour combien de temps? Personne ne sait. En tout cas, Boeing assure qu'aucune suppression de poste n'est prévue pour le moment. Au Liban, toujours pas de nouveau Premier ministre. Les négociations pour former un nouveau gouvernement entraînent en longueur. Les consultations prévues hier ont été de nouveau repoussées. Cela fait 2 mois que des manifestations contre le pouvoir secouent le pays. Et pendant ce temps, la situation économique se dégrade.
RTL Matin, 8h11.
C'est donc l'heure de retrouver notre nouveau rendez-vous sur les coulisses de Noël.
Pendant 2 semaines, vous le savez, on va vous faire découvrir ces hommes et ces femmes qui vont faire de ces fêtes un moment magique. Après les Santons de Provence, hier, voici les secrets des marrons glacés. Direction l'Ardèche, capitale de la Châtaigne, nous allons chez le confiseur Sabaton à Aubenas, Sophie Orange.
Entre la récolte de la Châtaigne et le marron glacé, 6 semaines de travail, d'attente, de perfection sont nécessaires. Bonne nouvelle pour Christophe Sabaton, ce millésime 2019 s'annonce prometteur.
On a eu une belle qualité de produit, il a fait sec, même trop sec, mais du coup le goût est excellent.
Le plus long, c'est l'épluchage de la Châtaigne. Ensuite, étape surprenante, le pliage, c'est le secret de la maison Sabaton.
On les plie dans du tulle, on met un côté bombé, un côté plein. C'est pour qu'à la cuisson, ils ne gonflent pas trop.
Les châtaignes vont passer des dizaines d'heures dans des cuves de 500 kg sous la surveillance de Michel. Avant d'être glacé, le marron est confit.
Pour confire un marron, d'abord on le fait cuire à l'eau. Ensuite, on le met dans un sirop de sucre et d'eau. Du sirop à 60 degrés, tout doucement, 24 heures. Sans compter la cuisson, bien sûr. Quand on sort les marrons, on prend un petit bout de marron sur la pointe d'un couteau, on le pose sur un réfractomètre, on contrôle son taux de sucre et on regarde s'il y a cœur, il est bien confit. Pour qu'il ait un moelleux, il soit uniforme. Si vous voulez, vous pouvez goûter.
C'est vrai que ça faisait envie, donc vous me permettez de goûter.
Oui, allez-y, goûtez, il n'y a pas de souci.
C'est déjà très très bon. Fondant, moelleux. Et pourtant, ce n'est pas terminé. Une semaine de repos avant d'enlever le tulle et un nouveau tri.
Regardez, vérifiez s'il n'avait pas des taches. Donc, s'il est joli comme celui-ci, voilà, je peux le poser sur la grille. Et voilà, je le mets.
Et l'air de rien, on voit passer comme ça des centaines et des centaines de grilles de marrons.
Et voilà, toute la journée, effectivement. Il y en a partout.
Voilà, donc maintenant qu'ils sont bien gorgés de sucre, ces marrons vont être glacés. C'est ici que ça se passe, hein, c'est ça, Christophe Sabaton.
Oui, donc c'est un enrobage d'un mélange de sucre glacé d'eau, très fin. Et après, c'est passé au four 2 minutes. Et après, on laisse encore reposer toute une nuit pour que le glaçage soit bien adhérent aux fruits.
Dernière étape, la touche finale. Chaque marron est emballé dans du papier doré par Paula, notamment, qui travaille ici depuis 14 ans.
Pour moi, c'est comme si on déballait un cadeau.
Est-ce qu'il faut le manger en une bouchée ou le manger en plusieurs bouchées?
Alors, si on veut bien le déguster, il faut le manger en plusieurs bouchées. Pour pas le manger tout d'un coup.
Sauf que c'est tentant quand même. Et les marrons glacés seront fabriqués ici jusqu'à la veille de Noël.
Voilà les secrets des marrons glacés avec Sophie Orange chez Sabaton, entreprise familiale créée en 1907. Allez, on finit avec ce tube de Noël que vous connaissez forcément.
Maria Carré.
Maria Carré, absolument. All I want for Christmas is you. Tout ce que je veux pour Noël, c'est toi. Alors, ça fait 25 ans que la chanson existe, mais elle vient seulement maintenant de devenir numéro 1 des ventes aux États-Unis.
Vous
c'est jamais vu numéro 1 des ventes. Un quart de siècle après, en fait, la diva n'a jamais cessé d'exploiter la chanson au moment de Noël dans des vidéos, des concerts. Mais là, ça fait vraiment un carton. Et la chanson lui a rapporté, figurez-vous, en droit d'auteur, 60 millions de dollars.
Eh bien, écoutez, joyeux Noël, Maria. Hein.
Chanson créée en 1h30 au piano, a-t-elle raconté.
Ça fait rêver.
Ouais.
8h14.